Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance, qui vous accompagne en vacances, au bureau, au village, à la maison, où que vous soyez, pour que 2021 soit une année digitalement excellente. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. APHP, ce sigle, c'est celui de l'assistance publique hôpitaux de Paris, service public de santé qui regroupe près de 100 000 professionnels. Un centre hospitalier universitaire qui s'appuie sur une quarantaine d'hôpitaux et presque autant de facultés, écoles et instituts de formation. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler de ces partenariats de coopération internationale. Une soixantaine de projets à l'heure actuelle, une coopération au pluriel, coordonnée, pilotée par la direction des relations internationales de l'APHP. Un appui qui va de la prise en charge de patients non résidents au don de matériel, qui concerne aussi l'accueil de professionnels de santé étrangers pour des stages, des projets de recherche. Et pour ce qui est des partenariats, donc notre sujet du jour, à l'instar d'un jumelage entre deux villes, des binômes sont constitués entre l'équipe d'un hôpital français de la PHP et leurs confrères des hôpitaux du Sud, en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Le projet retenu va permettre de renforcer, d'améliorer l'offre de soins sur une problématique de santé pertinente, innovante. Il sera copiloté par le partenaire local et celui de l'APHP, un partage d'expériences qui permet d'étendre les compétences, d'accroître l'offre de soins et de valoriser certaines spécialités dans tous les domaines de la médecine. Projet imaginé par les acteurs de santé locaux et pour répondre, c'est certainement l'élément essentiel, hein, répondre aux besoins évolutifs des populations. Et pendant cette émission-là, on a fait le topo, on va vous proposer des illustrations concrètes en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal. Et pour bien comprendre l'esprit, le fonctionnement de ces partenariats internationaux, en studio avec nous, professeur Gilles Brucker, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes responsable des coopérations hospitalières à la direction des relations internationales de l'APHP. Professeur Brucker, médecin, professeur de santé publique à l'Université Paris-Sud, spécialiste en épidémiologie des maladies transmissibles. Vous êtes aussi secrétaire général de la FRAVI, l'Alliance francophone des acteurs de santé contre le VIH. Illustration en Côte d'Ivoire. On va retrouver en ligne d'Abidjan dans quelques instants le professeur Madeleine Amorissani-Folquet, chef de service de pédiatrie au CHU de Cocody, vice-président de la Société ivoirienne de pédiatrie, professeur Folquet qui préside aussi l'Union des sociétés et associations nationales africaines de pédiatrie. On donnera la parole au docteur Serge Ngouattana, médecin anesthésiste réanimateur au centre des urgences de Yaoundé au Cameroun. Et puis, troisième projet, hein, cette fois, focus sur le Sénégal, le professeur Sili Touré, chef du service de stomatologie, chirurgie maxillofaciale à l'hôpital universitaire Aristide Le Dantec de Dakar.
Priorité santé sur RFI.
Alors, professeur Gilles Brucker, expliquez comment s'organise cette coopération, les projets de partenariat qu'on va évoquer tout à l'heure. Une approche générale sur l'esprit de ce que vous faites à l'international. Pourquoi une énorme machine comme l'APHP, qui a déjà tellement de rôles, tellement de travail, on va dire, encore plus en ce moment, mais tellement de travail, pourquoi vous engagez en dehors de ce territoire, de votre zone d'implantation, l'Île-de-France, Paris, et puis aussi des hôpitaux sur la Petite Couronne, pourquoi s'engager en dehors de ce territoire français?
Alors, il faut considérer, et c'est essentiel, que la santé est un bien mondial, un bien public mondial. Et donc, il faut savoir partager ce bien public et il faut que l'APHP apporte sa contribution au partage de ce bien public. La loi hospitalière donne mission aux hôpitaux pour développer ses partenariats internationaux, s'engager dans une coopération internationale. Et il est vraiment indispensable que l'APHP, qu'on appelle souvent ce navire amiral des CHU français, s'engage dans cette politique de coopération, s'engage pour renforcer la santé là où elle est nécessaire, parce que pour la santé, il n'y a pas de frontières. Il faut que nous partagions aujourd'hui l'innovation, Il faut que nous partagions l'organisation des soins, il faut que nous partagions la qualité. Il ne doit pas y avoir ces lignes de fracture. Elles existent, bien sûr, mais en tout cas, au niveau des professionnels de santé, il ne peut pas y avoir cette fracture entre le Nord et le Sud. En tout cas, il faut tout faire aujourd'hui pour la réduire. Et l'engagement de la PHP, notamment vis-à-vis des pays du Sud, vise à répondre à ce besoin, à ce partage et aussi à cette mission qui fait que les professionnels de santé au sud ou au nord s'engagent dans une même démarche.
Parce qu'on perçoit bien la finalité éthique, mais tout simplement, on est en période de crise sanitaire, on comprend aussi que c'est essentiel pour la santé des habitants de cette planète. On est tous dans le même bateau.
Exactement. Et si nous ne nous occupons pas des questions qui se passent, c'est vrai pour l'environnement, c'est vrai pour la santé, santé et environnement sont très liés. Donc toutes ces questions, il faut aujourd'hui, de façon absolument indispensable, les gérer à l'échelon planétaire. C'est la démarche aussi de ce qu'on appelle la santé globale ou la santé mondiale. Et il est indispensable que les CHU français, il n'y a pas que la PHP qui est engagée là-dessus, mais la PHP est vraiment un moteur majeur de cette démarche-là.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette dimension globale. Et on va le voir, il y a des actions très ponctuelles. Tout ça, ça se construit brique après brique. Et cette ouverture justement sur le monde, elle a plusieurs formes. Il y a toujours la formation. Là, c'est toujours essentiel. C'est vrai qu'on va dans n'importe quel hôpital, on voit des médecins qui viennent du monde entier. Il y a des accents, il y a des airs, il y a différentes langues. Et ça fait plaisir à entendre aussi. Il y a le don de matériel. Il y a la prise en charge de patients qui, chez eux, n'ont pas forcément la chance d'avoir les mêmes ressources scientifiques pour se soigner. On va parler des partenariats, des projets d'équipe. Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un jumelage. On voit à l'entrée des villes des panneaux, cette ville travaille avec telle ville du bout du monde. C'est un petit peu la même chose.
C'est tout à fait ça. Ce que nous voulons, c'est ne pas nous satisfaire de grandes déclarations. C'est du concret, c'est du pragmatisme, c'est de la proximité entre les hôpitaux, de la proximité entre les équipes soignantes. C'est un vrai travail de terrain au quotidien et c'est une approche au plus près des patients et au plus près des besoins. C'est vraiment un travail, et on le verra dans les exemples qui ont été pris, qui est immédiatement dans la fonctionnalité au niveau des services.
Et même si on allait plus loin, on pourrait même quantifier en nombre de vies sauvées. C'est peut-être très concret, mais c'est aussi ça la réalité. Coopération internationale, ça veut dire qu'il y a du mouvement. On peut pas dissocier ça de ce qu'on vit actuellement, la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de frein dans les rouages à cause de ce que l'on traverse en ce moment?
Alors la pandémie Covid a été, bien entendu, à la fois une grande difficulté à traverser. Alors pour la PHP, au sein même de ces hôpitaux, on le sait,
avec la pression.
Et chacun connaît la mobilisation majeure qu'il y a eu des soignants, à pays ailleurs, mais bien sûr, les difficultés de déplacement, la lourde tâche qui a pesé sur les soignants dans nos hôpitaux n'a pas rendu facile aussi les déplacements et les partenariats. Mais en revanche, nous avons compris, parce que il y a cette volonté d'adaptation à l'évolution de la situation à la PHP, nous avons aussi largement engagé des démarches dans une coopération internationale sur le Covid. Et si nous ne pouvions pas nous déplacer, nous avons utilisé ces moyens modernes d'échange et de partenariat.
Qu'on a tous
envoyé de
aussi.
La documentation, organiser des visioconférences, utiliser au maximum toutes les possibilités d'échange de façon à soutenir les pays du Sud dans leur organisation contre le Covid.
Alors on va bien sûr quitter ce studio pour illustrer cette dimension internationale. Trois partenaires dans des hôpitaux d'Afrique de l'Ouest et du Centre, professeur Gilles Brucker. Mais cette coopération, elle concerne d'autres continents aussi. L'Asie, l'Amérique latine, peut-être un petit peu moins l'Europe orientale.
Alors oui, il est en tout cas important pour nous de répondre à chaque fois que nous le pouvons aux demandes, et il y a bien sûr des demandes notamment en Asie du Sud-Est, et nous sommes présents au Vietnam, nous sommes présents au Laos, nous sommes présents au Cambodge, nous avons aussi engagé des actions en Birmanie. Et puis, nous avons aussi renforcé nos partenariats dans les pays du Sud. Je reviens là du Pérou. La situation notamment du Covid est tout à fait dramatique. Mais nous contribuons là aussi à un effort de soutien, de documentation, de partenariat et de renforcement des compétences.
Alors, illustration comme promis, on commence par la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan. 97.6 FM.
Et on retrouve en ligne professeur Madeleine Amorissani-Folquet. Bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous parler, chef de ce service de pédiatrie du CHU de Cocody. On va parler en particulier d'un partenariat, celui qui vous lie à l'hôpital universitaire Raymond Poincaré de Garches, en région parisienne. Professeur Folquet, on va commencer par le début tout à fait, parce qu'on parle d'une spécialité dans votre spécialité, la pédiatrie. Ce projet précis, c'est la ventilation non-invasive. Explication.
D'accord, merci. Je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez de parler de cette collaboration Nord-Sud. Vous savez, nous avons rencontré le professeur Jean Bergounou grâce à un de nos collègues qui a effectué ses études de pédiatrie à Abidjan et lors de notre visite à l'hôpital de Garches, où il travaille maintenant. Nous avons rencontré le professeur Jean qui a été très sensible à nos difficultés à gérer des problèmes respiratoires de nos enfants. Donc, le projet de ventilation non-invasive, dénommé projet Bramoko, c'est-à-dire homme fort en langue locale, a ainsi vu le jour pour répondre aux besoins que nous avons de prendre en charge ces enfants posant des problèmes respiratoires. Donc, ce partenariat avec l'équipe de Jean de l'hôpital de Garches dure depuis 2 ans maintenant, et il a permis l'arrivée à Abidjan de toute une équipe médicale composée du chef de service lui-même, du docteur Mbielle, pédiatre, d'une infirmière, Clarisse Semen, et d'Antonio Paraniello, le spécialiste en machine. Et vraiment, ce fut formidable. Ce projet a été financé par l'APHP et il a obtenu donc l'aval de nos 2 hôpitaux. Et ces hommes et ces femmes qui ont pris quelques jours volontairement pour venir nous soutenir et nous accompagner dans ce projet, nous profitons aussi pour remercier tous les donateurs et l'ambassade de France en Côte d'Ivoire qui nous a livré le matériel. L'équipe est venue avec des consommables, vu la difficulté que nous rencontrons ici sur place d'en avoir. Des cours théoriques et pratiques ont été faits à tous les médecins inscrits en spécialisation de pédiatrie, mais également à l'ensemble de l'équipe soignante du service de pédiatrie du CHU de Cocody, les infirmiers, les infirmières, les sages-femmes, les surveillantes d'unités de soins. Et Antonio, qui était le technicien, a montré à toute l'équipe comment gérer les appareils, les ranger, les nettoyer. L'infirmière a expliqué à toute l'équipe comment il était facile de surveiller le malade sous ventilation non invasive, et le directeur de notre hôpital a compris l'importance de cette ventilation non invasive et a donné son accord. Il a promis aménager une salle d'hospitalisation afin qu'elle puisse répondre aux normes puis effectuer cette ventilation non invasive.
On perçoit bien quand on vous écoute, professeur Folquet, l'importance de la rencontre, de la dimension humaine, du partage. Je voudrais juste revenir pour comprendre l'utilité absolue de ce type de pratique, de ce type de spécialisation. Cette technique de ventilation, elle est indiquée pour des enfants atteints de quel type de maladie ?
Atteints qui ont des problèmes respiratoires.
Des pneumonies notamment.
Des pneumonies. Oui, des pneumonies, quand on connaît l'importance de ces pneumonies dans nos pays. Et généralement, quand ces enfants venaient, ils étaient en détresse respiratoire. Nous, on n'avait que la source d'oxygène à leur donner. Et on ne pouvait pas faire de la ventilation invasive parce qu'on n'avait pas l'appareil et c'est trop lourd. C'est la réanimation, normalement, qui a ce type d'appareil. Mais notre réanimation est à la fois adulte et enfant et ils ne disposent parfois de 2 appareils seulement pour les enfants. Et c'est difficile d'admettre ces enfants donc en réanimation. Et on assistait impuissant des fois au décès de ces enfants-là par faute d'assistance ventilatoire.
Parce que c'est vrai qu'on a des réalités épidémiologiques différentes. Une pneumonie dans les pays du Nord, les enfants meurent très rarement. C'est une tueuse d'enfants dans les pays les plus pauvres. C'est important de le souligner parce qu'on se dit la pneumonie. Non, la pneumonie, c'est absolument redoutable pour les enfants entre 0 et 5 ans.
Oui, redoutable pour ces enfants-là. Bon, on a la chance maintenant d'avoir des vaccins pour lutter contre des germes qui donnent cette pneumonie. Mais il y a d'autres germes qui induisent la pneumonie et dont on n'a pas les vaccins. Et même quand l'enfant est vacciné, il peut faire sa pneumonie. Il vient dans un tableau de détresse respiratoire. il faut lui donner des antibiotiques, mais il faut l'assister jusqu'à ce que ses poumons puissent être capables maintenant de ventiler tout seul. Et cette assistance se fait grâce à ces appareils. Et qu'on a maintenant, puisqu'on a la ventilation non-invasive, on n'a pas besoin de matériel lourd, on a besoin de ces appareils-là, de brancher l'enfant dessus, et ça fait vraiment des miracles. On n'a plus besoin d'intuber nos enfants. Et franchement, depuis que nous utilisons ces ventilations non invasives, on a des résultats vraiment palpables que nous partageons avec l'équipe. Donc cette coopération nous a permis de faire partir un médecin pédiatre à l'hôpital de Garches qui maîtrise maintenant cette ventilation non invasive, et maintenant ici l'équipe a été formée à ça. On va installer ces appareils là dans la salle adaptée, et surtout nous avons des staffs communs qui ont été programmés avec l'hôpital de Garches pour répondre aux cas difficiles, pour discuter. Donc c'est une coopération vraiment qui est bénéfique pour nos enfants, quand on sait que la pneumonie, comme vous l'avez dit, est tueuse, surtout des enfants de moins de 5 ans.
Professeur
Ça
Bruckier,
fait vraiment partie de la pessimée.
Professeur Bruckier, ces projets, comme celui qu'on vient d'évoquer à l'instant, ils sont financés pour quelle durée? Comment ça se décide?
Alors d'abord, je profite de cet échange pour saluer Madeleine Folquet, qui fait un travail exceptionnel au CHU de Cocody dans des conditions extraordinaires, et qui, je suis très heureux du développement de ce partenariat. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on sauve des vies. Là, vraiment, on sauve des vies. Ces pneumopathies, ces maladies respiratoires de l'enfant, ça tue. C'est la première cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans. La première cause.
Plus d'un million de décès chaque année.
Exactement. Et qu'est-ce qu'il faut pour sauver ces vies? Pas des choses exceptionnelles, pas des médicaments extrêmement coûteux, des choses ou de la technologie. Il faut de l'air, il faut de l'oxygène. Donner de l'oxygène, quelques antibiotiques de base, et on sauve des vies. Et c'est pour ça que on ne peut pas accepter que ces enfants petits meurent de ces infections respiratoires aussi simples à traiter. Et le développement de ces techniques où on fait respirer l'enfant, on lui donne simplement de l'oxygène, où on sauve des vies. Voilà, ça c'est un partenariat qui est vraiment absolument formidable. Alors, pour combien de temps? Effectivement, il y a toujours la question, pour répondre à votre question, les projets. Nos projets, en général, ils ont des objectifs précis que l'on veut atteindre sur la mise en place, notamment ici, de cette ventilation non-invasive. Quand on dit non-invasive, il faut comprendre que ça veut dire qu'on ne met pas les enfants sous des machines à respirer. Et c'est une technique qui est beaucoup moins à risque et beaucoup moins coûteuse que de les mettre sous machine. Et donc, ce que nous voulons, c'est que les équipements soient mis en place, l'organisation soit faite, et ces partenariats sont en général d'une durée de 3, 4, voire 5 ans.
Professeur Folquet, qu'est-ce que vous avez appris avec ce partenariat? Vous diffusez aussi vous-même cette information à d'autres médecins de la sous-région?
Oui, puisque, comme je vous l'ai dit, ça nous a permis de former, avec l'arrivée du professeur ici, de former les médecins inscrits en 2S de pédiatrie. Et dans nos médecins inscrits en 2S de pédiatrie, ils viennent de partout. Ils viennent du Congo, ils viennent du Mali. Donc, nous diffusons la formation à tous, aux pédiatres ici et également dans la sous-région.
Et aller aussi se former auprès de confrères français pour des médecins qui sont dans votre équipe et qui peuvent aller justement avoir des enseignements très spécialisés.
Oui, quand ils viennent, nous choisissons des médecins universitaires, donc qui viennent enseigner également, qui viennent nous aider dans la formation des autres médecins.
Merci beaucoup, professeur Madeleine Folquet. Merci pour toutes ces explications. Professeur Gilles Bruckier, vous restez avec nous. Une petite pause musicale dans Priorité Santé. On reste en Côte d'Ivoire avant de rejoindre le Cameroun. Quelques minutes encore. Tout de suite, on retrouve Serge Beno et ce titre « Li Fuende ».
Moïse Samnani, Coach Mozindo. Ma chérie, je m'appelle Beno. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ce soir, je m'installe au Congo. Avec Yorobo Swaga. Swaga, quand on m'apporte un aloketo. Boya Tobina et Longo. Ce son là, ça va tout déranger. C'est l'Afrique qui gagne. A démarrer, à démarrer, tout le monde démarre. La piste, ça va démarrer. Ma chérie, faut danser. Faut bouger ton matos. Ma lifonie, wende.
Yala Akabata Bella City Boys Manza Camalion Olivier Kamanz, la fierté africaine.
Ambassadeur Sangare Sidiki Boubacar.
Les mains sur la tête, tu places les côtés. Dans les touches de Toto, attrape les lolo. Oya DJ Vidigue, Moulou Poukou DJ, DJ Virus.
Kofi Olomide,
ne crains ma part.
Priorité santé sur RFI, on continue de parler des partenariats hospitaliers initiés entre Paris, entre la PHP et le Sud. Focus pendant notre émission sur trois exemples sur le continent africain. On a vu tout à l'heure, à l'instant même, la Côte d'Ivoire, coopération internationale. Et toujours avec nous pour en parler, un médecin, professeur de santé publique, responsable de ces coopérations hospitalières à la direction des relations internationales de la PHP, le professeur Gilles Brucker. Cette dimension de la francophonie, un professeur Brucker, pour financer ces formations, on imagine que les besoins sont considérables. Hein. On connaît la situation dans cette région de la francophonie, particulièrement au sud et dans l'est du monde, dans l'est de l'Europe en tout cas. J'imagine qu'il y a davantage de candidats que de lauréats. Il faut dire non à un certain nombre de projets ou vous arrivez quand même au fil des années à passer en revue ces différentes candidatures?
C'est une question effectivement parfois difficile. Nous n'avons au départ pas d'a priori sur ça c'est il faut faire ci, il faut faire ça. On essaye de répondre aux attentes des partenaires. On essaye d'attendre, de répondre à leurs priorités et on essaye de monter avec les équipes de la PHP des projets très pragmatiques, très concrets qui correspondent à ces besoins. Et de ce fait, la couverture des thèmes est extrêmement large. Il y a des projets qui portent sur la sécurité de la naissance, qui est un thème évidemment majeur, sur le mère-enfant, beaucoup de projets sur l'hygiène hospitalière pour la qualité des soins. De plus en plus de projets aussi sur la chirurgie, on va y revenir tout à l'heure, parce que on sait qu'il y a aujourd'hui un très gros problème d'accès à la chirurgie pour 90% des personnes vivant dans les pays à faibles ressources. Et donc... c'est très difficile, y compris des projets sur la psychiatrie que nous prenons en compte également. Donc, il n'y a pas de domaine exclu. Il faut voir si ça correspond réellement à une capacité de répondre à ce besoin. Nous travaillons beaucoup aussi sur la cohérence des liens entre les deux équipes. Nous travaillons beaucoup à la cohérence du projet, aux facteurs de réalisation sur le terrain. Et ensuite, les projets sont arbitrés, nous les soumettons à des bailleurs. Et donc, parmi ces bailleurs, ces financeurs, il y a le ministère de la Santé français à travers le programme de coopération internationale qui est piloté par la Direction générale de l'Organisation des soins. Il y a aussi des projets qui sont financés par l'Agence française du développement et qui sont coordonnés par la Fédération hospitalière de France. Et il y a là un jury qui va effectuer une sorte de sélection des projets. Et nous avons la chance que la grande majorité de nos projets sont retenus.
Et passent. Alors comme promis, on va partir pour le Cameroun.
RFI à Yaoundé. 105.5 FM.
En ligne avec nous, docteur Serge Ngouattana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur au centre des urgences de Yaoundé. Le partenariat que l'on évoque avec vous pendant les prochaines minutes, ce partenariat, il est établi avec l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Alors, comme tout à l'heure avec votre consoeur, le professeur Folquet, état des lieux, forcément, s'il y a ce projet, c'est qu'il y avait un manque à combler quand vous avez monté votre dossier. Vous, on va dire, ce sont des insuffisances en matière de réanimation. Pour parler tout simplement, qu'est-ce qu'il fallait améliorer, professeur, docteur?
Merci, Madame Paris, de me passer la parole. Bonjour à tous les sujets de RFI, bonjour à vos nombreux auditeurs. Effectivement, avant de solliciter le partenariat avec Henri Mondor, nous avions remarqué sur le terrain, dans notre prise en charge habituelle, une insuffisance tant sur le plan théorique, sur le plan pratique et sur le plan matériel, équipement de notre personnel et de notre hôpital dans la gestion des maladies en urgence et des maladies en réanimation.
Alors, on parle de ventilation, là encore, on parle encore de détresse respiratoire, mais pour que ça dise quelque chose aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent, on va dire, c'est pour quel type de problème de santé, pour quel type de pathologie, pour quel type d'accident respiratoire, on va aux urgences avec une détresse respiratoire quand on souffre de quoi ?
Les causes d'une détresse respiratoire aux urgences sont très diverses. Mmh. Elles sont pour la plupart en rapport avec une pathologie du cœur ou une pathologie du poumon. Mmh. Les pathologies cardiaques dans le cœur rentrent souvent dans le grand tiroir des insuffisances cardiaques. Mmh. Et au niveau du cœur, on peut avoir des infections, on peut avoir des embolies pulmonaires. C'est un petit caillot de sang qui migre au niveau d'une veine et qui va se bloquer au niveau d'une des principales artères pulmonaires. Les causes au niveau pulmonaire peuvent être infectieuses ou non infectieuses.
Alors, dans le contexte camerounais, justement, pour prendre en charge ces détresses respiratoires, docteur Ngouattana, il manquait quoi, pour être concret ? On imagine une salle de réanimation, il manquait des appareils en particulier, il manquait un savoir-faire en particulier ?
Il manquait un savoir-faire, il manquait plus exactement une expérience certaine dans la ventilation assistée de ces patients. Mmh. Il manquait un savoir-faire au niveau du personnel soignant, au niveau des infirmiers, dans la surveillance et la gestion infirmière de ces patients sous ventilation mécanique. Il manquait un savoir-faire sur le plan de l'ingénierie, de la maintenance du matériel biomédical. Mmh. Parfois, vous avez du matériel, vous pouvez avoir du savoir-faire, mais lorsque un de ces appareils tombe en panne, on n'avait pas toujours l'assistance technique pour nous accompagner pour atteindre nos objectifs et pour remplir.
Et c'est vrai que quand on fait appel à une équipe qui a la même problématique, même quand on parle avec des confrères qui viennent du Nord, ils savent ce que c'est un appareil qui tombe en panne, ils savent ce que c'est la maintenance. Et c'est vrai que quand on parle des hôpitaux sur le continent africain, il arrive qu'il y ait des appareils très performants qui arrivent. Le problème, c'est que derrière, la partie technique, elle manque.
Effectivement, Madame Paré, l'un des principaux axes de coopération entre les hôpitaux français et les hôpitaux africains, c'est très souvent axé sur le don de matériel. Mm-hmm. Mais nous avons remarqué dans notre pratique courante qu'au-delà du don, il faudrait peut-être accompagner, et c'est cette sollicitation que nous avons faite auprès de Henri Mondor, que nous avons sollicité un accompagnement au niveau de la maintenance de cet équipement, au niveau de l'ingénierie biomédicale.
Alors, depuis quand ce programme de coopération a-t-il été lancé ? Aujourd'hui, est-ce que vous voyez déjà des résultats ?
Tout à fait, Madame Paré. Le partenariat a été signé en 2018. Mm-hmm. Et une année après, en 2019, il y a une équipe du CHU d'Henri Mondor, constituée du professeur Dessap, de Mme Ouedraogo et du docteur Azazi qui a séjourné une semaine au Cameroun dans le cadre d'une semaine scientifique au cours de laquelle nous avons eu à discuter et à échanger sur nos pratiques respectives dans la prise en charge et la gestion de ces patients en insuffisance respiratoire, mais pas seulement. Les discussions se sont étendues aux patients atteints de sepsis, aux patients présentant des urgences cardio- et neurovasculaires. Et donc, au terme de cet échange, nous avons déjà noté une amélioration perceptible dans la qualité et le pronostic, la qualité de prise en charge et le pronostic de ces patients. Et les formations sont encore en cours et nous espérons à terme améliorer notre façon de prendre en charge ces patients, améliorer le pronostic de ces patients.
Les formations encore en cours, professeur Gilles Brucker, à travers les différents projets, on comprend bien à quel point la formation continue des soignants, c'est un véritable pilier. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de formation et d'échange dans les savoir-faire ?
Alors, c'est un volet complètement essentiel de ces coopérations parce que il ne faudrait pas considérer que nous allons faire dans ces partenariats, venir faire, puis partir, et quand on est parti, il se passe rien. Donc, l'objectif fondamental, c'est le partage des savoirs, le partage des compétences, le partage des savoir-faire, à la fois au niveau des médecins, mais aussi au niveau des paramédicaux, mmh. au niveau des infirmières, au niveau des cadres soignants, mmh. et aussi, comme vient de le dire le professeur Nguata, c'est très important sur la maintenance, mmh. au niveau notamment des ingénieurs biomédicaux. Mmh. Les ingénieurs biomédicaux, on en a généralement peu parlé. Ce sont des gens de l'ombre, mmh. on les voit pas. Mais s'ils sont pas là, les machines tombent en panne, mmh. et on les, quand on les visite
remise,
l'hôpital,
on les remise
elles
dans
sont
une...
sous housse, oui, oui. et on dit ça, mais ça, ça marche pas. Mmh. Mais ça marche pas depuis combien de temps? Oh, ça fait un an. Et alors pourquoi c'est pas réparé? On attend. Mmh. On attend soit parce qu'on n'a pas l'argent, mmh. soit, etc. Donc il faut de la maintenance. Donc il y a un ensemble, une cohérence de toute l'organisation de la prise en charge, et il faut que tout le monde bénéficie du niveau de formation qui corresponde à l'activité, à son développement et à cette innovation. Et de ce point de vue-là, donc, la formation est un axe absolument majeur de nos coopérations, soit sur place avec des équipes qui vont là-bas, soit en accueillant aussi des personnes dans nos hôpitaux, des médecins, des paramédicaux. Et pour donner un chiffre assez éloquent, à la PHP, nous accueillons tous les ans 500, près de 500 professionnels de santé étrangers, médecins, plus un certain nombre de paramédicaux.
Alors, on parle là encore de santé respiratoire, particulièrement avec vous, docteur Nguatna, de réanimation. On sait à quel point cette spécialité, la réanimation, a été sollicitée en France au cours des derniers mois, compte tenu du contexte de crise et, on va dire, d'une véritable surcharge des services de réanimation. Est-ce que certains des enseignements de ce partenariat engagé depuis 2 ans, comme on l'a entendu, ont été directement intégrés, appliqués pour des patients Covid chez vous? On sait bien sûr qu'il y a eu beaucoup moins de malades du coronavirus en Afrique centrale qu'en Europe, mais malgré tout, est-ce que certains cas de complications respiratoires ont été pris en charge avec justement toutes ces connaissances récentes?
Oui, tout à fait, Madame Paris. Alors, pour prendre un exemple très précis, nous avons pu, dans le cadre de quelques patients en détresse respiratoire que nous avons eu atteints de la COVID-19, que nous avons eu à prendre en charge, nous avons pu mettre en pratique ce que nous avions appris dans la gestion des patients en insuffisance respiratoire aiguë. Nous avons notamment eu à utiliser le décubitus ventral. C'est une technique qui consiste mm-hmm. à mettre des patients qui présentent dans cette détresse sur le ventre. Mm-hmm. Ça contribue à améliorer leur oxygénation, ça contribue à améliorer la tolérance de la dyspnée. Nous avons également eu à utiliser un appareil spécial qui nous avait été donné lors de la dernière mission de Henri Mondor. C'est ce qu'on appelle une CPAP de Boussignac. Ça permet aux patients de respirer contre une pression, mmh. et donc ça maintient dans les voies aériennes une pression expiratoire positive. Ça garde les alvéoles ouvertes, ça évite qu'elles se collapsent et ça améliore l'oxygénation.
Et ça sauve donc, vies. Et ça sauve des vies. Docteur Nguatna, coopération, synergie, on a parlé de l'arrivée chez vous des médecins, on va dire, du Nord. Est-ce que ces médecins français ou ces médecins qui travaillent dans des hôpitaux français découvrent aussi chez vous beaucoup de choses, au Cameroun, une autre réalité, réalité économique, sociale, bien sûr, mais aussi médicale, un autre esprit du soin?
Tout à fait. Je vais prendre un exemple. Ce qui me marque, en fait, ils sont souvent surpris de voir que dans notre contexte à ressources limitées, on peut faire autant avec si peu, tout en restant pratiquement exclusivement clinique. Mm-hmm. Parce que très souvent, on n'a pas les moyens, ou le patient n'a pas les moyens de faire des grandes investigations, des investigations lourdes. Parfois, il faut avoir un sens clinique bien développé pour pouvoir faire poser le diagnostic adéquat, le diagnostic certain.
C'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les appareils, les derniers IRM, dernier cri, comme on dirait, mais malgré tout, un examen, un interrogatoire, l'observation... Tout ça, ça permet aussi d'apprendre énormément. On vous remercie infiniment, docteur Nguatna. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Très bonne journée à Yaoundé. Professeur Gilles Brucker, formation, maintenance, on a bien compris. Il y a aussi ces protocoles pour améliorer la sécurité des patients. Et puis, parfois aussi des états des lieux, aller observer comment ça se passe sur place. Là aussi, ça permet d'améliorer la sécurité des patients. Ce travail d'évaluation, il est demandé par les établissements. Comment ça se passe?
Alors, si on veut monter des projets concrets et qui se veulent efficaces, il faut sur place faire un état des lieux, parce qu'on ne peut pas construire comme ça en théorie les choses. Alors, même si on peut échanger beaucoup d'informations sans aller sur place, il faut souvent, dans un premier temps, regarder avec nos partenaires locaux, avec le professeur Nguatna au Cameroun, comment est organisé le service, quels sont les équipements.
Pour savoir où on débarque.
Voilà. Prendre des marques et puis définir vraiment une stratégie de renforcement. Cette stratégie de renforcement qui va passer notamment par une discussion sur les modalités de prise en charge, l'organisation des soins, c'est fondamental. Ce qu'a dit le président Guatemala est très important, c'est-à-dire c'est pas forcément une question d'argent, c'est souvent une question d'organisation, de mobilisation, d'écoute de chacun. Ce qui m'a frappé quelquefois quand des personnes de ces pays du Sud viennent chez nous, ils disent il y a énormément de dialogue chez vous au sein des équipes. Il faut promouvoir au sein des équipes localement, il faut savoir écouter les infirmières, écouter les sages-femmes, écouter tous les soignants et partager cette information pour renforcer l'organisation. Et ça, nous le faisons beaucoup en allant sur place, en allant voir comment c'est organisé, et du coup, en essayant d'identifier les endroits faibles du système, les maillons faibles de l'organisation de la prise en charge, et c'est là qu'il faut faire porter l'effort pour que les résultats soient à la hauteur de ce que l'on attend.
Alors, notre troisième et dernière étape à présent, c'est Dakar.
RFI à Dakar, 92 FM.
Professeur Sili Touré, bonjour. Bonjour, vous êtes avec nous ?
Oui, bonjour, je suis avec vous.
Parfait. Vous êtes le chef du service de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale à l'hôpital universitaire Aristide Le Dantec, partenariat monté avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un service du professeur Patrick Goudot. Et on peut dire, hein, professeur Touré, dans votre spécialité, la stomatologie, vous êtes, on peut le dire, un pionnier.
Absolument, Madame Paré. Par la force des choses, j'ai été le premier spécialiste de chirurgie maxillofaciale et stomatologie du Sénégal. Pourtant, Dakar était la première université francophone, parce qu'à l'époque, c'était la 17e université française qui dépendait de l'Académie de Bordeaux. Malgré tout, la spécialité qui est la nôtre était une spécialité méconnue, parce que quand on parle de stomatologie, les gens pensent tout de suite à l'odontologie, qui est la chirurgie dentaire. La spécialité de stomatologie est une spécialité médico-chirurgicale qui, actuellement en France, est la spécialité la plus longue de toutes les spécialités, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, effectivement, parce que nous sommes des éléments de liaison entre les dentistes qui maîtrisent bien la dentisterie et qui ont quelques limites en médecine, et les médecins qui maîtrisent bien la médecine et qui ont quelques limites en dentisterie. Donc, nous sommes des éléments de liaison entre les deux. Parce qu'il faut une formation initiale, médicale, solide, avant d'apprendre la dentisterie et la chirurgie.
Travail sur la bouche. Pour quelle pathologie, pour quel cas, on a communément recours à votre spécialité ?
Alors, c'est un peu de tout. Le plus connu par rapport aux aspects sur le plan pathologique, c'est la traumatologie maxillofaciale. Quelqu'un qui fait un accident de la route et qui a des fractures au niveau de la face, c'est hautement spécialisé. Donc, ce ne sont pas les orthopédistes qui vont les réparer, mais ce sont les chirurgiens maxillofaciaux. Donc, ça c'est un aspect bien connu du public, parce que quand on fait un accident, on a besoin d'une réparation autant que possible dans les meilleures conditions. Deuxièmement, il y a l'aspect cancérologique. Quand on fait un cancer au niveau de la cavité buccale ou au niveau de la face, on a besoin de soins hautement spécialisés, soit par rapport à l'exérèse de la tumeur en tant que telle, soit par rapport à la reconstruction qui va suivre cette exérèse. Maintenant, il y a l'aspect infectiologie. Parce qu'une carie dentaire, quand elle est simple, c'est l'apanage du chirurgien dentiste, mais quand elle se complique d'une cellulite, d'une ostéite ou de certaines pathologies plus graves, il faudra les services d'un stomatologiste et d'un chirurgien maxillofacial. ce n'est pas exhaustif. Hein.
Mm-hmm. Donc, là, on imagine qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent concerner directement un problème qui atteint cette partie du base du visage. Cette spécialité, vous l'avez acquise à Paris. On parle des partenariats, on parle de la coopération Nord-Sud. Vous aussi, forcément, on a compris, il n'y avait pas la spécialité en Afrique subsaharienne. Vous êtes allé apprendre en France, mais dès le départ, le projet était là, c'était travailler, exercer dans votre pays, le Sénégal.
Absolument, tout à fait, parce que par le flux du hasard, j'ai été amoureux de la spécialité depuis ma deuxième année de médecine. Donc, depuis lors, c'est ce que je voulais faire. Malheureusement, quand j'ai fait mon doctorat en médecine et que je voulais faire la spécialité, cette spécialité n'existait pas au Sénégal, elle n'existait même pas en Afrique francophone. Mmh. Donc, quand j'ai demandé une bourse à l'époque, elle m'a été refusée parce que les autorités disaient que la stomatologie n'était pas une priorité pour le Sénégal. Mmh. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu aller à Paris et faire la spécialité, comme vous l'avez dit, à la Pitié-Salpêtrière. Mmh. Et j'ai fait mon cursus en ayant déjà en tête l'idée de revenir, parce que pour moi, il n'a jamais été question de faire une carrière en Europe. C'était déjà clair dans ma tête qu'il fallait que j'aille apprendre pour revenir chez moi. Mmh. Et donc, c'est ce que j'ai fait exactement.
Donc des liens entre vous et la Pitié, donc on l'a compris, qui ne remontent pas à hier. Hein, la Pitié-Salpêtrière, c'est le plus grand hôpital de Paris, tout simplement, en termes de personnes reçues, de personnes traitées et de médecins qui exercent. On comprend bien que votre spécialité, elle est rare dans la sous-région, des besoins importants. Le partenariat, pour y revenir, il permet de faire quoi qu'auparavant, vous n'étiez pas capable de faire?
Alors, ça nous permet, et ça nous a permis, de faire un certain type d'intervention qu'on n'aurait jamais imaginé faire, en tout cas pendant cette période au Sénégal. C'est ce qu'on appelle les reconstructions faciales complexes. Ça c'est en droite ligne de la pathologie tumorale. Malheureusement, en Afrique, les gens viennent des fois avec des tumeurs à un stade vraiment tardif. Mmh. Et dans des cas comme ça, où on est obligé de faire des exérèses très, très mutilantes, si ce n'est pas suivi de reconstruction, c'est compliqué. Mmh. Alors, il se trouve qu'il y a un type de reconstruction qu'on appelle les lambeaux libres de fibula ou de péroné, qui sont des interventions qui sont extrêmement complexes, qui demandent une logistique très lourde et une technicité certaine, parce que ça se fait à double équipe. Mmh. Avec, à la Pitié-Salpêtrière, où je suis passé en tant que étudiant d'abord, en tant que chef de clinique associé ensuite, quand on fait un lambeau libre, c'est deux équipes. Il y a une équipe qui travaille au niveau du site et il y a une équipe qui travaille au niveau de la tumeur. Après, les deux équipes se rejoignent au niveau de la tête, donc ce sont des interventions lourdes qui demandent une bonne connaissance de la microchirurgie.
Ça veut dire qu'on a combien de soignants mobilisés pour ce type d'opération? Ça dure des heures et des heures.
Ah, ça dure des heures et des heures. Mm-hmm. Alors, donc, avec le professeur Patrick Goudot, dans un premier temps, il est venu à Dakar. On a vu que ça correspondait à nos besoins. On a essayé de faire le tour pour voir si techniquement c'était possible, déjà. Par rapport au fait que si les équipes venaient de la France, est-ce qu'il était possible de faire ce genre de chirurgie à Dakar? Donc, on a fait le point. On a vu que en aménageant certains espaces qui existaient déjà au niveau du bloc central, il était possible de faire ce genre de chirurgie. Alors, on a pu quand même faire les premiers lambeaux libres en Afrique de l'Ouest. À ma connaissance, ça ne se faisait pas ailleurs. Et par la grâce de Dieu, on se retrouve maintenant avec une série importante de patients pour qui il aurait fallu une évacuation sanitaire vers l'Europe. Et ça, c'est hors coût. C'est inimaginable ce que coûte une évacuation sanitaire à partir d'ici. Donc, de manière pratique, on a pu faire des lambeaux libres de péroné dans un pays du Sud, avec des équipes de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et ce qui est à magnifier, c'est le fait que ce soit les mêmes personnes qui s'occupent de patients français qui soient venus à Dakar et même en deux temps, avec il y a une première équipe qui vient, on commence à opérer ensemble. Auparavant, bien sûr, il aura fallu faire un travail en amont. Sinon, ça n'aurait pas été possible.
Pour préparer, oui.
Donc, la première équipe vient, on travaille ensemble. Après, ils vont repartir et il y a une équipe relais qui vient et on continue, on travaille sans relâche. Jusqu'au dernier jour, on travaille. Donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve avec des patients opérés, mais surveillés dans des conditions qui sont les mêmes qu'en Europe, avec des résultats qui sont similaires. Et justement, le but du jeu est de faire en sorte que, par rapport aux futurs praticiens qui viendraient, qui s'intéresseraient à la spécialité, qu'on puisse parvenir à faire ce genre d'intervention à Dakar. Et comme on l'a dit, Dakar, ça draine aussi bien les patients du Sénégal que les patients de la sous-région.
Et important, encore une fois, on l'a compris dans ce message, sauver des vies. Merci beaucoup, professeur Sili Touré. On arrive à la conclusion, professeur Gilles Brucker. On a compris, et j'aimerais insister sur ce point, l'apport de toute cette technologie, de tout ce savoir, de toute cette formation qui arrive du Nord. Mais quand ils rentrent, ces soignants qui sont venus donner de leur temps en bénévolat, hein, même si c'est plus compliqué en ce moment, qui sont venus donner leur temps, qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils rapportent comme expérience sur ce travail semblable et pourtant très différent quand on est ailleurs?
Alors c'est intéressant votre question parce que ces partenariats sont très enrichissants des deux côtés. Des deux côtés, et évidemment notre objectif c'est d'appuyer les équipes, appelons-les du Sud, en tout cas de nos pays partenaires, mais nous avons besoin aussi de voir cette réalité, de mesurer le fossé gigantesque de ces inégalités de santé, de voir aussi la chance que nous avons de vivre en France avec l'organisation des soins et des hôpitaux qui est la nôtre. C'est une chance qu'on ne mesure pas tous les jours, elle est exceptionnel quand on voyage. Et c'est très important pour les soignants d'aller voir ce qui se passe, pour les médecins, mais aussi pour les infirmières, pour les sages-femmes.
On apprend.
Il faut aller voir comment c'est ailleurs pour apprendre comment font les autres, pour s'enrichir. Certaines expériences nous ont servi. Je pense à un partenariat que nous avons fait avec l'hôpital de Panzi, dont vous avez déjà parlé dans une émission antérieure sur les violences faites aux femmes. Mmh. Et nous avons tiré des leçons de ce que nous avons vu là-bas pour l'organiser à l'hôpital Avicenne, par exemple, à l'hôpital Bichat. Mmh. Exactement. Mmh. Et puis, pour reprendre un mot de ce qu'a dit le professeur Sili Touré, il a dit, on disait la chirurgie maxillofaciale, c'est pas pour le Sénégal. On n'a pas le droit de dire ça. Ce n'est pas acceptable pour nous. Tout est possible. Il faut le vouloir. Aujourd'hui, on fait de la chirurgie spécialisée au Sénégal. On travaille aussi avec beaucoup de pays sur la transplantation d'organes, sur la chirurgie cardiovasculaire. Tout est possible. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir ensemble. Et ça, c'est ce qui nous enrichit tous.
Et cette volonté, elle est essentielle. Merci beaucoup, professeur Gilles Brucker, d'avoir participé à cette émission pour nous parler de ces coopérations internationales. Et demain dans Priorité Santé, question de femmes, on parlera du sommeil du bébé pour leur apprendre à mieux dormir. À demain, d'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunou Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce digitalement innovante. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.